Nous vivons une époque formidable.
Quoique.
Bienvenue dans les matinales de Bartas.
À partir de 8h30.
Quoique.
Le lundi, le mercredi.
Beaucoup de local.
Et puis, un peu d'autre chose.
Les matinales de Bartas.
En direct.
Sur le 107 FM.
J'ai retrouvé mes lunettes.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107. Nous sommes déjà le lundi 31 mai, il est 8h30. Au programme de cette matinale, c'est toujours un plaisir de recevoir nos amis de la soupe. Et ça y est, sauf cataclysme, bombe nucléaire ou pandémie mondiale, je signale que cette dernière est impossible, on n'a jamais vu ça. Les 20 ans du Festival de la Soupe se fêteront fin octobre prochain et avec moi, pour en parler, elle est capable d'être au four et au moulin en même temps. Si, je vous assure, Kelly, bonjour.
Bonjour Ben, bonjour à bonjour François et bonjour à tous.
Alors faire du pain est à la mode et si son pain sera aussi doux que lui, il sera excellent. François, bonjour.
Bonjour Ben, bonjour à tous. Et après cette introduction, ne peut être que chaud patate.
Elle est bien et vous comprendrez, auditeurs, auditrices, dans un instant pourquoi. Les 20 ans de la soupe, tout ce qu'il faut savoir, ce qu'il se passe dans les prépas, on en parle dans cette matinale. Et c'est lundi, et comme tous les 15 jours, ou presque, il m'en met plein la tête à chaque fois. Du coup, je l'ai censuré 3 semaines de suite, faut pas me chercher. Bon, c'est surtout qu'il y a eu des vacances, des jours fériés, tout ça. Il est à l'image de l'histoire avec un grand H, beau et torturé à la fois. Raphaël, bonjour.
Bonjour à tous.
Histoire brève, de quoi on parle aujourd'hui?
Nous allons parler d'Oloda et Kouyano.
Oulala.
Je garde le suspense pour tout à l'heure.
Je sens que tu vas nous réveiller, ça va être cool. Alors il y aura le coup de cœur, les coups de cœur de la soupe en musique. Cette introduction est beaucoup trop longue, alors on y va direct pour l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas. On a tous un tendre souvenir avec la soupe, peut-être de la première qui, avec sa couleur verte bizarre, nous dégoûtait quand on était gosse, mais qui nous a réjoui les papilles, la première cuillère en bouche. Oh, tendre souvenir que cette odeur qui monte doucement l'hiver au coin d'un feu. Celle de maman ou de grand-mère, celle des restes qu'il y avait dans le frigo, celle du pain et du fromage qu'on trempe dedans, ou celle du festival de la soupe fin octobre à Florac, ou le 1er mai à Lille. Ah, ces nordistes ne savent décidément pas faire les choses comme tout le monde, et ça roche grâce à ça la primeur du Festival de la Soupe en France, quelques mois avant que celle-ci n'arrive à Florac. Oh oui, tendre souvenir que le goût de ces soupes, qui est à l'opposé de celle qu'on nous fait manger de force depuis plus d'un an maintenant. Le vocabulaire des politiques est comme ces légumineuses avariées, pourries et dégueulasses, et à l'aspect et le goût que même si on les mettait dans un compost, la vie et la biodiversité s'apparenteraient au rien, au néant, au que dalle. La soupe nauséabonde que nous préparent les politiques pour 2022 risque d'en faire vomir plus d'un. Le sel est remplacé à trop forte dose par l'insécurité. Le migrant, ah là là, le poivre en quantité immense par ce qu'ils appellent à tort le problème des migrants. Terrorisme, chômage, délinquance sont autant d'ingrédients qui font et vont faire de cette soupe la chose la plus écœurante à manger, attisée par les flammes de médias morts de faim. Accrochez-vous, auditeurs et auditrices, car on va bien malgré nous en bouffer à outrance, qu'on le veuille ou non. Raccrochons-nous à cette chance, le tendre moment d'amitié et de partage que nous allons vivre ici à Florac fin octobre et bien d'autres avant ça. Ah oui, nos soupes à nous ne changeront peut-être pas le monde, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elles peuvent faire taire les cons et surtout faire du bien à notre chère liberté.
Mon fils, mon maître, avez-vous préparé quelque chose de diabolique?
Ah, ce sera du gâteau.
Ah bon?
Beignet mortel?
Non.
Clafoutis au curare?
Classique.
Macaron foudroyant?
Non.
Tarte au venin de vipère.
Pantoute.
Ok. Ha! Le pudding à l'arsenic. Dans un grand bol de strychnine, dilué de la morphine, faites tirer à la casserole un grand verre de pétrole. Je vais en mettre deux. quelques gouttes de ciguë, de la bave de sangsue, un scorpion tranché très fin.
Et un peu de poivre en grain.
Non. Émiettez votre arsenic dans un verre de narcotique, deux cuillères de purgatif et faites bouillir un feu vif. Je vais en mettre trois. Dans un petit plat à part, tiens-tire du sang de lézard, bouillir dans un thé à coudre
et un peu de sucre en poudre.
Non. Le pudding à l'arsenic nous permet ce plastique dormir sur les bandits que mangeons les crocodiles. Le pudding à l'arsenic nous permet ce plastique dormir sur les bandits que mangeons les crocodiles. Vous versez la mort au rat dans du venin de cobra pour adoucir le mélange. Pressez trois quartiers d'orange. Je vais en mettre un seul. Décorez de fruits confits, moisi dans du verre de gris, tant que votre pâte est molle.
Et un peu de vitriol.
Non.
Oui.
Sur les pantinets, que mangeront les crocodiles. Demain sur les bancs d'une île, que mangeront les crocodiles. Le pudding à l'arsenic nous permet ce pronostic. Demain sur les bancs d'une île, que mangeront les crocodiles. Des Gaulois. Papa, tu veux la Gaulois.
Le pudding à l'arsenic tiré du dessin animé Astérix chez Kilopathe, interprété ici par les Québécois des Colocs. De retour en plateau avec nos amis les gens de la soupe, Kelly François. Raphaël est là, il rédige sa chronique pour tout à l'heure. On va parler de tout ce qui se passe pour vous, de tout ce qui va se passer, de vos besoins. Mais on va se débarrasser des questions tristes tout de suite avant de parler de l'avenir. Quelle déception pour vous cette année, vous y avez cru jusqu'au bout, mais bon.
Tu veux dire pour 2020 ?
Ouais.
Ben oui, effectivement. Enfin, on y a cru sans trop y croire quand même. Hein. On était assez réaliste dès le mois de juin, juillet, que ça serait compliqué. Effectivement, on a décidé d'annuler, je crois que c'était fin août, début septembre. Bon, on voyait que c'était... les mesures qui nous seraient demandées seraient impossibles à tenir. Donc, on a très vite décidé d'annuler le festival. Parce que ça ne correspond pas du tout à l'esprit qu'on souhaite y mettre. Hein. S'il faut que les gens soient masqués, s'il faut qu'il y ait du plexiglas pour protéger la buvette, un service d'ordre, enfin bref, tout ce qui ne convient pas. Et c'est vrai que pour cette année, on reste quand même aussi toujours avec une interrogation.
Bien sûr.
Même si là, dans l'immédiat, on s'est dit que le festival allait se réaliser dans des conditions normales. Donc on part dans ces conditions, sur cette hypothèse-là. Mais on fera quand même un point à nouveau à la fin de l'été, fin août, début septembre, pour vraiment décider si on maintient l'édition ou pas.
De toute façon, on a deux solutions et on choisit plutôt celle de faire comme si ça allait se faire, puisque ça, ils ne nous le prendront pas.
Ouais, c'est sûr, ça prend du temps d'organiser un festival, donc forcément, autant s'y mettre à fond, vous avez bien raison. Concrètement, est-ce que ça a eu ou est-ce que ça va avoir des conséquences sur le festival l'année prochaine ou finalement, ça rend plus fort ?
ça rend carrément plus fort. Et puis le festival étant autofinancé à 80%, en gros, la partie qui est restée, toutes les personnes qui nous, les structures qui nous subventionnent, ont conservé leur subvention, nous ayant permis de subvenir aux charges qu'on avait pu engendrer. Donc on a fait un bilan à quasiment zéro, quoi. Donc c'est parfait pour nous, on repart comme si il s'était rien passé. Il est tôt, mais on est chaud.
Voilà. Bon, y a quand même eu des choses d'engagées l'année dernière. Alors, il faut quand même préciser que, comme c'est les 20 ans du Festival de la Soupe, on a un budget qui est plus conséquent. On a demandé, justement, à la fois plus de subventions. Nous, on a créé un budget spécial pour vraiment fêter cet événement. Donc, on peut quand même remercier l'ensemble des partenaires financiers qui ont joué le jeu, même s'il y a eu l'annulation, hein, que ce soit la région, le département, la communauté de communes et la mairie de Florac. Donc ça, c'est quand même à souligner. Et en tout cas, bah, nous, on continue aujourd'hui le travail de préparation à fond.
C'est cool, t'as anticipé ma 12e question. Pas mal. Bien joué, moi j'adore. Le moral et la motivation des troupes doivent être au plus haut. Alors, je suis jamais vulgaire, mais là, ça me faisait marrer en préparant cette interview. Pardonnez-moi. Est-ce qu'une claque dans la gueule peut finalement foutre un bout de pied au cul ?
Moi, je crois pas, non. Moi, ça m'a pas forcément foutu un coup de pied au cul. Ça m'a plutôt démoralisé.
Ouais.
Mais ça encourage en tout cas à recommencer au moins comme avant et puis sans doute à faire un petit peu plus.
Et votre slogan, tu l'as dit tout à l'heure.
On échoue, patate, et on le reste.
Alors justement, on va commencer par parler de l'affiche. Vous tournez tous les ans d'artistes, hein, si je me souviens bien. Comment ça se passe cette année ?
Alors, du coup, oui, on change de graphiste chaque année. Et cette année, c'est Jay qui avait pas mal bien avancé l'affiche l'année dernière, qui reprend. Donc, on avait déjà une première version l'année dernière qu'on continue de finaliser et qui sera prête en principe avant l'été. Voilà.
Mmh. Hâte de l'avoir à chaque fois, cette affiche, puisque c'est un moment qu'on attend tous ici à Florac. Alors, faut dire qu'il y a un des partenaires aussi qui est à la base de ce festival il y a une vingtaine d'années. J'adore, parce que heureusement que je vous l'ai dit hors antenne. C'était l'Office du Tourisme. Et puis après, les gens de la Soupe, c'est ça ?
Oui, effectivement. Donc, l'Office du Tourisme, historiquement, a contribué à la création du Festival de la Soupe avec des bénévoles à l'époque. Et puis donc voilà, cette année, aussi pour marquer le coup des 20 ans, donc ils nous ont proposé un partenariat pour constituer en fait des banderoles, donc pour annoncer le Festival de la Soupe, qui seront affichées aux entrées de la ville de Florac. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant pour nous, parce qu'on a toujours un peu fonctionné avec du matériel pas forcément très durable, qui résiste pas trop aux intempéries. Donc là, c'est plutôt sympa et je crois qu'on peut se féliciter justement de ce partenariat.
Sachant que depuis toujours, ils nous font aussi la communication et ils s'occupent des inscriptions, tout ce qui est autour du concours de la soupe.
Alors l'AG cette année a eu lieu en février dernier, il me semble, oui ça doit être ça,
14 février,
oui le jour de la, on s'en fout. Vous étiez une trentaine je crois de participants quand même, avec un CA qui a été élu. Vous êtes 9 maintenant dans le CA avec des nouvelles entrantes.
Oui, alors le CA a été renouvelé quand même à 40% je crois, donc c'est un peu le cas toutes les années finalement, ça tourne et cette année on a des nouvelles personnes, ça s'est rajeuni, donc c'est plutôt sympa.
On a Elodie, Lucie, Iris, j'espère que j'oublie personne.
Voilà. Puis on a aussi Monette, la doyenne quand même, qui est toujours très présente,
donc depuis, c'est toujours sympa. Ans.
Et puis quand même, je voulais aussi rappeler, parce qu'on ne l'a pas évoqué, que Kelly est salariée.
T'anticipes toutes mes questions.
Mais ouais. Mais parce qu'il faut le souligner, je pense que c'est le bon moment. Et effectivement, il y a un CA, mais on a aussi une salariée donc, depuis l'année dernière. Et ça, c'est vachement important parce que ça permet de soulager le travail des bénévoles sur plein de points, que ce soit sur la programmation, sur la finance aussi, toute la partie administrative, donc c'est, et le travail de coordination.
Je suis secrétaire coordinatrice 5 heures par semaine. Voilà, donc je m'occupe de toute la comptabilité, des demandes de subventions, tout ce qui est administratif et de la coordination, et je reste référente de la programmation, qui est un gros boulot. Voilà.
Oui, et puis en plus de ça, quand une asso a un ou une salariée en l'occurrence ici, nous on en sait quelque chose à Bartas, ça veut dire que l'asso est saine.
Oui, 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 de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Au fur et à mesure de ces années, il y a quand même un matelas qui s'est constitué. Mais faut pas oublier qu'un festival organisé fin octobre, s'il y a un épisode Cévenol par exemple, ça, on peut vite boire le bouillon. Hein.
Et puis il y a pas mal de choses qui sont difficilement demandables à des bénévoles, enfin qui sont un peu plus, on va dire, chiant à faire, quoi. Tout ce qui est administratif, comptabilité, demande de subvention, c'est vrai que les bénévoles donnent déjà beaucoup, beaucoup, mais c'est pas mal que ce soit un poste salarié pour ces aspects-là.
C'est l'occasion que j'embrasse Véro, notre fée, qui s'occupe de ça, et je vois le travail fastidieux que c'est. Alors, bah, justement, on va parler un peu du budget, là, pour cette année, pour les 20 ans, puisqu'il est un peu plus gros. Quid du budget ?
Alors, le budget global, on est passé de 64 000 euros à 71 000 euros, des brouettes, tout ça, pour pouvoir faire des partenariats particuliers, notamment avec Bartas, Télédry, avoir une programmation un peu plus conséquente, donc pas forcément en termes de tête d'affiche, mais en tout cas que ce soit un peu plus qualitatif quand même, même si on a toujours une prog qui est plutôt pas mal, à mon sens. Une déco aussi un peu plus soutenue, des animations particulières, des surprises, voilà, des partenariats. Enfin, voilà, pas mal.
On voulait mettre l'accent aussi sur la décoration. Voilà, donc cette année, il y a un thème qui a été qui est venu progressivement comme ça, qui n'avait pas forcément été établi au départ, c'est le thème de la lumière. Voilà, et je trouve que il correspond plutôt bien.
On en a besoin en plus.
Le temps qui court, donc voilà.
On va voir la lumière au bout de ce tunnel.
Mais c'est sûr. Alors, en plus de vos partenaires habituels, ils sont nombreux, il y en a des nouveaux, je crois, et notamment l'UNESCO, il me semble.
Oui, en fait, on a déjà à la base, dans l'histoire de la soupe, il y avait un gros partenariat avec la fête de la soupe de Lille, qui a été créée la même année. Il y avait pas mal, il y avait pas mal d'échanges avec l'association qui maintenant est Atafaka.
Atafaka.
Il y avait des bus quoi, qui descendaient, la chouffe qui descendait aussi avec. Il y avait pas mal d'échanges.
Il y avait la roche en Ardennes aussi.
Et la roche en Ardennes, voilà.
Ça, c'est en Belgique. Oui, en Belgique, oui.
Voilà. Il y avait pas mal d'échanges et au fur et à mesure, il y a eu des nouveaux partenariats qui se sont déployés, notamment avec la Roya. Il y a eu des échanges aussi l'année dernière, dont François d'ailleurs a fait partie pour aller être présent auprès de leur fête de la soupe à eux. On avait commencé à établir du coup un partenariat avec l'UNESCO d'Andorre. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire là. On espère que ça va pouvoir se faire cette année, puisque eux aussi ont une fête de la soupe qui ne se passe pas tout à fait comme nous, mais ils étaient prêts à venir avec tout leur folklore et 700 doses de soupe et venir faire un échange et que nous, on puisse également aller là-bas en janvier. Donc, on espère que ça va pouvoir se faire avec le contexte. Et on a aussi été sollicité cette année par les étudiants pas loin de Toulouse et je me rappelle plus, un autre endroit aussi dans les Alpes, dans les Alpilles, pour pouvoir eux créer leur fête de la soupe et avoir un peu le retour de nos expériences, la manière dont nous fonctionne, puisque c'est ultra collaboratif et que c'est un festival qui est 100% gratuit. Donc qu'est-ce qui se cache derrière pour que ça puisse fonctionner comme ça fonctionne et amener 3-4 000 personnes dans une ambiance aussi chaleureuse qui correspond à nos statuts qui sont assez chouettes.
Ouais, le partage, hein, toujours une valeur importante. Voilà. Comme une bonne soupe, en fait.
Mais oui.
Ça se partage. Et d'ailleurs, en réécoutant un micro-trottoir qui avait été fait en 2015 à Châteaubriant, en Bretagne, il y a un festival qui s'est créé par des Châteaubriant, je ne sais pas que Châteaubriant c'est, je ne sais pas comment on dit, et qui l'ont créé après être tombé amoureux du festival de la soupe de Florac. Voilà. Alors, en plus de... Enfin, on va peut-être citer quand même peut-être quelques partenaires habituel que vous avez, histoire d'essayer de ne pas faire de jaloux.
Alors, peut-être en partenaire associatif, on a les Formicam, nos amis de Marvejol, et puis les Root Boys du Blémar qui viennent chaque année enrichir notre festival avec leurs folles animations. Les Foyers Ruraux de Langogne et de Florac qui viennent aussi... animé pour les petits et les plus grands, la programmation. les partenaires aussi, peut-être on peut citer pour s'éloigner un peu de l'associatif, le domaine de Gabali, peut-être François, et tu pourrais un peu plus nous en parler.
Oui, effectivement, je voulais commencer par la grignote, en fait,
oui.
Puisque vous savez que toute la nourriture en fait, qui est faite pour les deux jours du festival, ce sont des associations locales qui s'y attachent. Et donc c'est le souhait aussi de notre part de faire bénéficier aux associations locales de cet événement, la fête de la soupe. Donc le principe, c'est que toute association qui souhaite contribuer en faisant de la nourriture, alors nous après on veille à ce que ça soit qui est suffisamment en termes de quantité, parce qu'il faut quand même répondre aux besoins, et puis aussi en termes de diversité, hein, puisqu'il faut que ça soit varié également.
Et en termes de qualité aussi.
Et en termes de qualité, donc on est réceptif à toute demande, et le principe c'est que toute association qui participe reverse ensuite 20% de ses bénéfices à l'association des gens de la soupe.
Et non pas du chiffre d'affaires, hein. Donc 20% du bénéfice, c'est-à-dire que si les associations, bah, ça ne marche pas, ou qu'ils se font un petit chiffre, ils ne donnent que 20% de leur petit chiffre, ou si ça fonctionne bien, et ben, tant mieux pour eux, et tant mieux pour nous. Donc vraiment, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à envoyer un mail à lesgensdelasoupe@gmail.com. De toute façon, il va y avoir une annonce sur Bartas, sur le site internet, sur le Facebook. C'est Laurence qui s'occupe de ça. Et voilà, même si vous hésitez, vous n'avez jamais fait ça, il ne faut pas s'inquiéter. Il y a une réunion de coordination en septembre pour pouvoir vous expliquer tout ça, vous soutenir aussi techniquement, et aussi qu'il puisse ne pas y avoir de doublons avec d'autres, que vous puissiez chacun faire des choses différentes. C'est vraiment une belle aventure. N'hésitez pas à nous solliciter et rejoignez l'aventure. C'est vraiment un chouette moment pour vous, vos bénévoles, et puis c'est chouette pour nous et les festivaliers.
Tu m'étonnes. On continue de parler du festival et du gros dossier, notamment, que sont les commissions. Mais c'est lundi, il est avec nous en direct. Il arrivait à l'heure en plus ce matin, j'adore l'idée. Raphaël, t'es chaud ?
Ça va, ça va.
Eh ben, on y va, jingle.
Si tu fais pas l'histoire, c'est pas l'histoire qui va te faire.
Hein ?
Histoire brève,
histoire brève. Quand tu veux.
Bonjour Monsieur de Paris, bonjour. Aujourd'hui nous revenons sur tous les hommages rendus lors des commémorations de la mort de Napoléon en mai dernier. Vous avez suivi, comme tout le monde, les nombreux débats autour de l'héritage napoléonien qui ont eu lieu en France. Comme je vous connais, vous avez dû vous délecter de tous ces discours alimentés par des personnes instruites et informées pour connaître les aspects les plus méconnus et parfois les plus controversés de la vie de l'empereur. Napoléon en Corse, Napoléon à Paris, Napoléon en Russie, le retour de Napoléon, Napoléon III à la revanche. Bref, tous les autres épisodes auxquels nous avons apporté notre modeste contribution à travers de fantastiques clins d'œil qui nous ont conduit brièvement à faire ouvrir les yeux de millions d'auditeurs sur les points les plus discutés de la vie de Bonaparte. Ce déroulé de sa biographie a interpellé nombre d'humanistes sur un sujet sensible, celui de l'esclavage, rétabli par Napoléon pendant le consulat alors qu'il avait été aboli par le bien nommé Léger Félicité Santonax et consort en 1792.
La classe.
Je profite d'ailleurs de la mention de ce personnage pour rappeler que Radio Bartas poursuit sa campagne « Radio Bartas, choisis le prénom de tes enfants », au cours de laquelle l'animateur phare de la radio s'engage à vous envoyer un pins de la station ainsi qu'un body 6 mois dédicacé par tous les membres du CA de l'association Radio Bartas si vous choisissez pour vos bambins les prénoms que nous vous suggérerons. Après Louis-Alphonse le mois dernier, le prénom que Monsieur de Paris a donc choisi ce mois-ci est Léger Félicité. Alors, osez. Bref.
Ouais, faut oser, hein, c'est clair. Mais alors là, le pins, je l'offre, mais avec plaisir.
Donc, guettez les annonces sur Lozère Nouvelle, voir s'il y a c'est des Légers Félicités qui sont... J'en reviens donc à la question du rétablissement de l'esclavage en France qui eut lieu en 1802 et qui souleva moult débats. Non, Monsieur Desbarry, le débat ne portait pas sur votre proposition de rétablir l'esclavage pour que vous n'ayez plus besoin de laver un maillot de bain moulant votre voiture sur le parking du Tarnon, mais il portait sur la légitimité d'hommages multipliés pour cet homme qui condamna des millions d'affranchis à retomber dans leur état de servage 10 ans après avoir obtenu la liberté. Votre idole, Stéphane Bern, a d'ailleurs profité de l'occasion pour proposer une émission consacrée à Toussaint Louverture, grand artisan de l'obtention de l'indépendance par les révoltés d'Haïti. La bande-annonce de cette émission parlait d'ailleurs du méconnu Toussaint Louverture. alors que je ne pense pas que ce dernier soit réellement méconnu par le public. D'ailleurs, lorsque je vous ai posé la question, pour savoir si vous le connaissiez, vous n'avez pas hésité à me clamant fièrement que vous saviez pertinemment que Toussaint Louverture correspondait au jour d'ouverture exceptionnelle d'Intermarché le 1er novembre, et que vous aviez d'ailleurs reçu de nombreux bons d'achat utilisés exclusivement ce jour-là.
Bravo, bravo.
Je crois même que vous avez ensuite ajouté à ce cri du cœur en me pointant du doigt d'une façon tantinée agressive. On me la fait pas, moi. Quoi qu'il en soit, Toussaint Louverture n'est pas le seul esclave qui laissa une trace dans notre historiographie occidentale. Un autre exemple bien documenté, mais beaucoup moins connu dans nos contrées, est celui d'Oloda Equiano. Et c'est son histoire que je vais vous conter en m'appuyant essentiellement sur son autobiographie publiée en 1789. Vous avez une question, monsieur de Paris ?
Absolument pas, j'écoute attentivement.
Si je vous vois lever la main en tremblant et en rougissant, allez-y, osez, n'ayez pas peur, il n'y a jamais de questions stupides. Qui a écrit l'autobiographie d'Oloda Equiano ?
Bah oui, qui donc ?
C'est une bonne question, puisque l'auteur de cet ouvrage est un certain Gustave Vasa, qui est en fait le nom de baptême d'Oloda Equiano. Sur la couverture de ce livre, nous lisons d'ailleurs « The Interesting Narrative of Life of Oloda Equiano or Gustavus Vasa, the African, written by himself ».
Je l'ai retenu, mais voilà, je te le ressors à la fin.
Le héros de cette histoire naquit un beau jour de l'an 1745, quelque part dans le Biafra, au Nigeria. Lorsqu'il avait 11 ans, et un jour où tous ses parents étaient partis à la chasse, des esclavagistes entrèrent dans son village, le bâillonnèrent et l'emportèrent vers la côte atlantique. 7 mois plus tard, Oloda Equiano embarquait dans un navire négrier pour traverser l'océan et commencer une terrible vie de servitude. Il décrit dans son ouvrage les conditions de ce voyage qui provoqua la mort de nombre d'Africains. Ce périple s'acheva dans un port des colonies anglaises d'Amérique, où il fut vendu dans un marché aux esclaves de Virginie. Pendant quelques semaines, il est employé à désherber et à ramasser des pierres dans une plantation. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais c'est à partir de ce point-là que la triste vie d'Oloda Equiano prend une tournure, disons, inhabituelle par rapport à celle de millions d'esclaves qui partagèrent jusque-là son même sort. En 1763, il est racheté par Mr. King, un officier anglais qui avait constaté les notions que son esclave avait en arithmétique et décida de l'inscrire dans une école pour le former au métier de commis. Pour l'occasion, il est rebaptisé d'un nom chrétien, Gustave Vasa, à l'honneur d'un roi de Suède du XVIIe siècle, dont nous avons déjà eu l'occasion de parler lors d'une précédente brève.
Ouais, je me souviens, le bateau,
c'était le bateau qui avait coulé.
Le bateau.
Exactement. Avec son maître, il voyagea un peu partout dans le monde et se rend à plusieurs reprises en métropole. En 1766, il a les moyens de s'affranchir contre la somme de 70 livres et commence une nouvelle vie d'homme libre à Londres, où il devient barbier. Il participe par la suite à de nombreuses expéditions qui l'amenèrent jusqu'en Arctique. Durant ses nombreux périples, il observe la traite négrière qui s'accentue justement à cette fin du XVIIIe siècle et se rapproche des cercles abolitionnistes dont il devient un membre actif. Ce sont ces mêmes philanthropes qui le poussent à publier son récit pour alerter l'opinion britannique de plus en plus réceptive à ses discours. Ainsi paraît en 1789 l'autobiographie d'Oloda Equiano. Cela dit, la portée politique de ce récit a très vraisemblablement contribué à maquiller la réalité. Des recherches de l'historien canadien Vincent Caretta remettent fortement en question la véracité du récit. Selon lui, Oloda Equiano ne serait pas né au Biafra, mais à Charleston, en Virginie, de parents esclaves. Il n'a donc apparemment jamais connu la terrible traversée de l'Atlantique. Toutefois, même si Oloda Equiano a romancé sa vie, il n'en reste pas moins qu'il a été inspiré par grand nombre de témoignages qu'il collecta au gré de ses nombreux voyages. Pour rappel, le commerce triangulaire provoqua la migration forcée de près de 12 millions d'Africains qui peuplent encore aujourd'hui le sol des Amériques et des Caraïbes. Les mouvements abolitionnistes voient leurs efforts être récompensés quant à eux, puisque la Grande-Bretagne interdit l'esclavage en 1807 et s'engage à lutter contre le commerce triangulaire. Après eux, l'ensemble des pays européens condamnent la traite en 1815. Puis, telle une traînée de poudre, de nombreux pays abolissent l'esclavage dans le courant du 19e siècle. L'un des derniers pays à avoir enfin franchi le pas est le Pakistan, qui décida courageusement d'abolir l'esclavage en 1992. Comme quoi, ce genre de changement des mœurs peut parfois prendre un certain temps.
Tu m'étonnes. Et ne parlons pas de l'esclavage moderne, malheureusement, qui existe encore. Alors, Kelly, on a choisi... Non, c'est toi qui as choisi un morceau à faire une petite pause musicale avec un coup de cœur que tu as choisi.
Lequel tu veux ?
Oh bah, le Red Star.
Allez, Red Star Orchestra avec Mina Kumbia qui, alors, ne sera pas programmée cette année, devait l'être, mais malheureusement, ils ont une date. Mais bon, comme c'est mon petit coup de cœur, je voulais quand même que vous le faire partager.
Hola, Mina Kumbia. Hola, qué bonita.
Eu gosto da cumbia.
Olha, minha cumbia. Olha que bonita é. Olha, minha cumbia. Olha, que bonita.
Eu gosto da cumbia.
Olha, minha cumbia. Olha que bonita é. Olha que bonita é. Olha que bonita é.
Alors, nous sommes de retour sur le plateau de Radio Bartas. Merci Ben de m'avoir laissé l'honneur de reprendre.
C'est un plaisir, j'ai vu tes yeux brillants. Je peux le faire, j'adore l'idée. Et puis ce sera un plaisir tellement de te revoir régulièrement sur cette antenne,
mais
François.
Oui, bien sûr.
Évidemment, on parle du Festival de la Soupe qui aura lieu fin octobre prochain. Alors, Kelly, si tu veux te lancer pour un gros dossier quand même, les commissions.
Allez, les commissions. Alors, donc nous avons 7 commissions à la programmation, parce qu'il faut savoir que, pour rappel, on a un CA où nous sommes 9, mais qu'ensuite, il y a 7 commissions qui travaillent chacune de manière indépendante, avec dans chaque commission un référent qui donne les informations au CA et qui demande, pour certaines, notamment questions budgétaires, l'avis du CA. Donc les 7 commissions, donc il y a la soupe, avec aussi à l'intérieur le concours de soupe, la commission finance, la commission buvette grignote, la programmation, la vie associative, la communication et la déco. Donc chaque commission travaille tout au long de l'année avec un certain nombre de bénévoles, entre 5, 10, 15, 20, et réfère ensuite au CA pour tout ce qui est décisionnaire et axe de direction pour le festival.
Alors justement, tu as fait un tout petit... Enfin, pas parler de la programmation, parce que je suppose soit qu'elle est en cours, soit...
Je peux quand même dire quelque chose, c'est que ce qui avait été décidé l'année dernière et qui reste d'actualité cette année, c'est que pour les 20 ans, ça nous tenait à cœur de faire une programmation coup de cœur. Donc on a demandé que ce soit localement, avec des petites casseroles dans les commerces que vous avez dû voir sur les réseaux sociaux, par mail, dans nos feuilles de choux qui donnent les nouvelles de l'association, les coups de cœur de tout le monde, leur groupe préféré. On a contacté un petit peu tout le monde, savoir leur dispo, leur prix, s'ils existaient encore, tout ça. Et avec ça, on a réussi à faire une programmation coup de cœur, avec également quelques surprises en plus, et puis un petit accès aussi sur des groupes locaux, nos préférés, nos copains aussi. Voilà, donc on a une prog qui commence à se boucler doucement. On n'est pas en avance, mais ça va être chouette.
Tu m'étonnes. Non, c'est en plus une prog, c'est long à faire, quoi. C'est normal, il n'y a pas de souci. On va parler des bols, mon cher François. Notre cher Tom a arrêté, donc voilà, et un nouveau potier, et oui. Voilà, de Bédouès.
Mais oui, c'est vrai qu'il faut des bols quand même pour manger la soupe.
Et puis ouais, puis ça, c'est un peu mythique ici, le bol de Florac.
Le bol, c'est très très important, effectivement. En amont, je rappellerai quand même que les bols justement représentent quand même pas loin de 50% de nos recettes, donc c'est un élément fondamental. Et puis effectivement au cours des années les habitants de Florac et toutes les personnes qui viennent participer au festival de la soupe réclament leur bol. Donc c'est important de s'attacher à ce que ces bols soient vraiment très beaux, de bonne qualité, et donc on a confié ce travail à un potier de Bédouès, donc qui s'appelle Anthony Lagarde. Donc c'est la poterie du sens. Et donc on l'a missionné l'année dernière pour constituer les bols des 20 ans. Alors, de 2020,
bah ouais.
Il y en a une partie qui a été produite. Donc, 1300 bols ont été produits. Et du coup, bah, cette année, on est en 2021. Il n'y a pas eu de festival l'année dernière. Donc, Anthony va reprendre ses modèles, mais il va quand même les adapter.
Ah, il peut mettre 2021 sur ceux de 2020.
Voilà, tout à fait. En tout cas, c'est un choix qu'on a fait au niveau du conseil d'administration. C'est de dire... y aura deux bols.
Ah,
2020
y aura deux
et 2020.
Deux séries.
Voilà, là j'ai compris.
Voilà, tout
Collector.
À fait. Parce que bon, ça semblait un peu difficile finalement de ne pas avoir de bol 2021 alors que la fête se fera, espérons-le, en 2021.
Et ça peut être comme un album de Gaston Lagaffe, il manque le 5. Voilà, et du coup, ce qui donne mieux à des faussaires, etc. Enfin, je sais pas. Donc en tout cas, là, il y aura deux séries de bols.
Voilà, et donc on a commandé, sur le budget prévisionnel, en tout cas 2800 bols, donc ce qui est quand même conséquent, puisque ces dernières années, on a constaté que les stocks qu'on pouvait avoir diminuaient en fait fortement. Et là, les 20 ans, ça risque d'être un bol collector, donc voilà, il faut qu'on se prépare à tout ça.
Et juste, comme on ne l'a pas dévoilé, qu'on le dévoile comme à notre habitude, juste la semaine du festival, en petit indice, il est quand même... le slogan « On est chou patate » vous donne un indice sur la couleur. Et pour les habitués qui ont leur petite collection depuis 20 ans, on est retourné à une forme comme dans les premiers bols. Donc les gens vont être contents, ils vont bien s'empiler et ils pourront être en accord avec leur bol du début.
Est-ce que vous avez, déjà assis un prix pour ce bol ?
Le prix, il est de 9 euros, si je ne me trompe pas.
Et 9 euros pour un festival 100% gratuit, donc c'est, on va dire, la participation
c'est
volontaire. Voilà, c'est une
entrée volontaire.
Au lieu
que ça soit un billet, c'est un bol.
Et oui, et encore une fois, on n'est pas obligé de l'acheter, quoi. Voilà.
Ah donc, oui, tout à fait.
Bon. Libre, mais bon, ça fait quand même partie un peu de la tradition. Alors nous, avec Bartas, on en est heureux, on va faire un plateau en direct. Alors évidemment, on n'a pas encore assis vraiment comment ça va se passer, etc. Tout ça va se préparer calmement, on vous en reparlera. Et en plus, je tiens vraiment à les remercier à l'initiative de Marc et de Elodie, qui est dans votre CA, mais qui est aussi dans le nôtre. C'est vous dire comment elle est impliquée. On va vous concocter une petite émission en amont du festival, une rétrospective des 20 ans de la soupe. Ça va être super chouette, voilà. Est-ce que vous avez un plus beau souvenir, quelque chose qui vous a marqué depuis toutes ces années où vous faites le festival de la soupe?
Je n'étais pas préparé à cette
question. Ouais, j'aurais dû la poser en off, mais j'ai oublié.
Moi, je vais dire que ça fait 6 ans là, que je fais le festival. Assez rapidement en tant que bénévole, et puis dès la deuxième année dans le CA. Et moi j'ai un moment où déjà c'est un peu la course les dernières semaines, le jour J on a la tête dans le guidon et puis on est stressé, on est fatigué aussi, mais on est joyeux quand même. Et il y a un moment donné le samedi soir quand la foule est en train de danser, que le bar est plein, que les gens sont contents, que ça danse, là il y a eu un moment il y a 3 ans où j'ai eu comme une sorte de pause, un peu comme si le temps se ralentissait, et regardais juste tous les gens en train et de boire de la soupe et de danser et d'être au bar à se tenir entre eux, à danser, et j'ai trouvé ça... Enfin, je sais que j'ai un moment particulier, là, il y a 3 ans, où... et là, tu te dis, ah, c'est chouette, quand même.
Une image.
Voilà, ben exactement, moi, c'est les moments de stress que je vis, puisque je suis responsable de la buvette. Donc forcément, à ces heures-là, ça commence à être un peu excité. Non, moi, mes souvenirs... je suis arrivé à Florac en 2013, et j'ai vécu mon premier festival cette année-là, qui était un peu la dernière grosse année, avant qu'il y ait un petit changement de format du festival. Et j'avais été impressionné effectivement par la foule, et j'avais connu cette année-là le groupe le Kikiristan, qui m'a beaucoup marqué. Donc c'est mon coup de cœur en tout cas, qui n'est pas dans la programmation, mais c'est pas grave. J'avais vraiment apprécié l'ambiance. Et puis bon, après j'ai vécu le festival moi plutôt de l'intérieur finalement. Et je trouve que c'est également très chouette quand on est à l'intérieur dans l'organisation, de vivre ce moment-là, parce qu'on passe du temps à le préparer, c'est stressant. Et puis quand ça se passe bien, que ça se termine et qu'on se retrouve le dimanche à boire un coup et puis à manger les restes et à faire le bilan, c'est super quoi.
Transition toute trouvée, Makili, pour conclure, t'as un petit mot, un petit truc à faire passer, évidemment.
Alors oui, donc je rappelle que si vous êtes une association, n'hésitez pas à vous lancer dans la grignote pour nourrir nos festivaliers ou à proposer une animation. Nous sommes ouverts à toute proposition, sachant que le thématique de la déco est la lumière, pour rappel, mais que rien n'est obligatoire. Si vous avez envie de vous présenter, de faire quelque chose, ça ne fera qu'enrichir notre festival et en plus on sera super content puisque le festival, de toute façon, c'est vous. Si vous êtes juste une personne motivée pour ajouter une touche au chaudron, vous pouvez soit être bénévole dans l'une de nos commissions pendant l'année, même ponctuellement. Le principe des commissions, c'est vraiment de donner le temps que vous voulez. Vous pouvez aussi participer aux journées déco que François va vous rappeler les dates juste après, mais aussi il y a une liste de matériel dont on a besoin qui va être disponible sur notre site internet et dans les annonces de Barthas bientôt. Vous pouvez aussi être bénévole pendant le festival. Vous pouvez aussi liker notre page Facebook Les gens de la soupe. Eh oui, Les gens de la soupe. Vous pouvez aussi vous déguiser, mettez de la lumière partout, de la couleur pendant le festival. Vous pouvez aussi proposer votre logement pour nos artistes, puisque bientôt on va faire un appel à hébergement pour les petits groupes ou les personnes qui sont seules ou à deux. Enfin, les petits groupes, on essaye de, aussi de les loger chez l'habitant, parce qu'on trouve ça sympa et que ça réduit aussi nos coûts. Vous pouvez aussi motiver votre quartier à faire une soupe de quartier. Je sais qu'on a la rue du Four qui nous fait à chaque fois plein de soupes et on leur met une fanfare aussi pour animer. Donc n'hésitez pas à motiver vos voisins à faire une soupe de quartier, à ouvrir votre cuisine pour aller encore plus loin, ouvrir votre garage, préparer de la soupe. Vous pouvez simplement faire de la soupe, puisque je rappelle que les soupes du festival sont les soupes des festivaliers, en plus de ceux des restaurateurs, de la soupe des gens, etc. Vous pouvez même, à minima, amener vos légumes, faire votre soupe sur place si vous n'avez pas le temps. Et surtout, venez danser, sourire, partager, déguster de la soupe et voilà, venez faire la fête.
Les journées déco, il y en a une par mois. Il y en a une qui s'est déroulée dimanche, là, qui vient de passer. Et la prochaine, c'est fin juin.
Oui, on alterne entre les samedis et les dimanches. Donc, je vais énoncer les dates. Samedi 27 juin, dimanche 19 juillet. Samedi 8 août, dimanche 30 août. Samedi 12 septembre, dimanche 27 septembre et samedi 10 octobre.
Évidemment, on relayera ces informations à chaque fois puisque on est là pour ça. En tout cas, toutes les infos, les besoins, les contacts, la prog qui arrive prochainement. Évidemment, les journées déco, j'en passe à des meilleurs, sont sur le site du festival, festivaldelasoupe.fr. Si vous voulez les contacter, c'est lesgensdelasoupe@gmail.com. Merci beaucoup. Oui, Kelly.
Non, on a encore des choses à dire.
Ah, mais oui, si parce qu'on a quand même, si oublié, on a quand même oublié l'essentiel. Ben, tu rappelais tout à l'heure que le partage se faisait autour d'une bonne soupe, mais il peut se faire aussi autour d'un bon verre de vin.
Eh
ben
oui.
Tu ne me contrediras pas.
En plus, je l'ai noté, tu vois, mais j'ai sauté. Eh ben voilà. Et ben voilà. Donc la cuvée des 20 ans et la bière cuvée spéciale.
Voilà, effectivement, puisque donc on avait imaginez pour les 20 ans donc concocter donc une cuvée spéciale, donc le Château La Soupe, et nous avons pu le réaliser grâce au partenariat avec le domaine de Gabali, donc en l'occurrence Sylvain Gachet qui nous a aidé à faire l'assemblage. Donc nous étions l'année dernière presque 10 bénévoles à participer à cet assemblage, donc c'était très très intéressant. Donc nous avons concocté notre propre vin, nous avions participé aux vendanges, voilà, c'était une très très belle ambiance. Du coup, bah, la cuvée est sortie, elle a été en vente, alors effectivement pas dans le cadre d'un festival, mais bon, on l'a présentée sur le marché, elle est également en vente chez les paysans et au domaine de Gabali. Et pour cette année, bah, nous avons voulu renouveler l'opération. Donc bis repetita, une nouvelle cuvée est en préparation et donc on vous dévoilera tout ça sans doute au mois de septembre, hein. Avec une étiquette aussi, peut-être Kelly, je te laisse en parler de ça.
J'ai oublié son prénom, qui nous fait une graphiste locale, il faudrait que je retrouve, mais de toute façon son nom sera sur le site internet, sur l'étiquette et sur le Facebook, qui nous a fait une superbe étiquette que vous pouvez retrouver sur les bouteilles, donc comme François l'a dit, au domaine ou sur le magasin des producteurs, et qui d'ailleurs, pour le petit clin d'œil, comme c'était une carotte à rajouter, on se l'est fait carotte pour cette année, elle a trouvé ça très très bon et donc elle va nous refaire une étiquette dans les mêmes eaux pour cette année, on a hâte de la découvrir. Et quand même, on n'a pas dit les dates, 29 et 30 octobre, sachant que en avant-première, je vous dévoile qu'on aura un petit jeudi en plus, un petit jeudi soir scène locale.
Ah ça c'est bon ça. Ah ben oui, c'est important de le dire. Oui François.
Et si vous n'aimez pas le vin, le partage peut se faire aussi autour d'un bon verre de bière.
Tu m'étonnes.
Voilà, et donc pour cette année, alors ça ne s'est pas fait l'année dernière non plus, notre brasseur, on va dire attitré entre guillemets, parce que c'est lui qui coordonne souvent justement les bières pour le festival. Je rappelle qu'on fonctionne habituellement avec 3 brasseurs locaux. Donc il y a la brasserie de la Jonte, il y a Franck, j'ai oublié son nom, qui est dans la vallée française. Et donc Bertrand Wacquet, qui nous propose pour ses 20 ans de faire une bière aromatisée à un ou plusieurs légumes.
Classe.
Donc je ne vais rien dire de plus, ça sera la surprise. Mais en tout cas, c'est très sympa de sa part. Donc on va attendre un petit peu les prochains... comment évolue la situation. Mais en tout cas, dès septembre, il sera prêt.
J'allais le dire, le festival, ça se déroule le 29 et le 30 octobre prochain, et avec un pré-festival le 28, donc hâte de voir tout ça. Merci beaucoup les amis d'être venus nous en parler.
Merci à toi, c'était des informations denses et variées et diverses, vous pouvez les retrouver sur notre site internet, sur notre Facebook. On est chaud, mais il est tôt, donc on dit ça un petit peu, voilà. Ouais. Ça part dans tous les sens, mais on espère qu'on n'a oublié personne, et on remercie quand même tous les gens qui participent à ce festival, de près, de loin, partenaires associatifs, financiers, animations, bénévoles, voilà. Tout le monde, on est trop content.
Et j'adore parce que tu es arrivé ce matin en disant que tu n'étais pas réveillé, mais qu'est-ce que ça doit être quand tu es réveillé, dis donc. Ça doit être assez hallucinant. Merci beaucoup Raphaël.
Mais merci, moi on je ne suis pas réveillé par contre.
Non, mais ça tout va bien. Nous merci, on se voit avec plaisir, on se voit dans 15 jours.
Oui, je combattrai la censure.
Ouais, oula. je n'ai plus de répondant Raphaël, tu me souffles à chaque fois. Et puis en attendant, on prépare un deuxième épisode sur Napoléon, la deuxième partie qui sera après son couronnement et après tout ce qu'il a fait. De... Bon, t'en as parlé vite fait tout à l'heure, mais notamment...
Des choses diverses, ouais. Législatifs, ouais. Les droits de l'homme, toutes ces réflexions qu'il a pu avoir.
Ouais. Hâte. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous suivre. On se retrouve mercredi, on va parler de mode, de stylisme et de modélisme. Et oui, ce sera ma grande première sur Radio Bartas et ça fait du bien. Il me reste à toutes et à tous de vous souhaiter une excellente journée. Profitez-en bien. Kelly, prépare-toi, je te demande avec quoi on se quitte.
Alors, on se quitte avec du coup un groupe du vendredi soir qui est Zibeline. Voilà, je vous laisse écouter.
C'est génial.
On est choupatate.
Bonne journée à toutes et tous. À mercredi. Ciao.